Bonjour à tous, merci d'être fidèles à Radio Courtoisie et ça n'est pas un vain mot. Une enquête Médiamétrie annonce, parmi d'autres chiffres remarquables, qu'actuellement, 5,2% des auditeurs d'Île-de-France déclarent nous écouter régulièrement. Merci pour ça. À titre d'information, ce n'est pas négligeable. Radio Nova, par exemple, est à 3,6 et Europe 1 seulement à 6,5. Fantastique encouragement à persévérer sur ce cap original, pas toujours facile à tenir, qui nous vaut parfois des malentendus et des incompréhensions. Essayons de les démêler. Mais revenons à l'instant présent et cheminons ensemble vers les neiges du Kilimandjaro.
Le Kilimandjaro, que les neiges revêtent d'un blanc manteau, est un volcan haut de 5893 mètres. On prétend que c'est la plus haute montagne de l'Afrique. Sur le flanc ouest, près du sommet, se trouve la carcasse congelée et desséchée d'un léopard. Personne n'a su expliquer ce que le léopard cherchait à cette altitude.
Cette petite phrase, c'est l'exergue d'une nouvelle d'Hemingway qui porte ce nom, Les neiges du Kilimandjaro, c'est le titre de l'émission. Pourquoi ? Parce que je trouve que le léopard est allé au-delà de lui-même. On ne sait pas très bien ce qu'il allait chercher dans des régions qui ne sont pas les siennes. Et c'est ce que j'aimerais que nous fassions cette émission, recevoir des gens qui sortent un peu des sentiers battus, des chemins normaux, et essayer de comprendre pourquoi eux aussi, comme le léopard, vont au-delà de leur capacité ou du parcours qui était prévu pour eux. Aujourd'hui, donc, nous recevons deux auteurs qui ont des casquettes bien différentes, deux essayistes, pour aujourd'hui, pour avec nous en tout cas, avec Diane de Bourguelon, qui est généralement conseillère en stratégie et communication et qui est l'auteur ici des Indésirables, qui nous parle de la prolophobie. Question rituelle, Diane, tout de suite, quelles seraient vos neiges du Kilimandjaro, le sommet métaphorique ou réel que vous voudriez atteindre dans votre vie ?
Mais écoutez, en tout cas, déjà, ça faisait assez longtemps que ça me tenait à cœur de publier un livre. Et déjà, c'est un très bel achèvement. Je l'appelle mon deuxième enfant, sachant que j'ai déjà un premier enfant. Ce sont mes deux accomplissements. Et moi, j'ai des rêves assez simples, en réalité. J'imagine que si je terminais ma vie en disant que j'ai répandu plus de bonheur et d'amour que de choses mauvaises, eh bien, je pense que ce serait un très bel accomplissement pour moi.
C'est très respectable, merci. Nous recevons aussi Georges Fenech, ex-magistrat, ex-député du Rhône et actuellement, entre autres, activité chroniqueur sur CNews. Même question, merci d'être là, pardon. Même question pour vous, quel serait le sommet que vous aimeriez atteindre, que vous n'auriez pas encore atteint dans votre vie ?
Ah, j'aimerais libérer la place Vendôme de tous ces assaillants.
Ça commence.
Idéologues. Avançant avec les fourches codines des cultures de l'excuse et autres bilvesées. Voilà, ce serait mon ambition.
D'accord, bah vous y concourez, c'est ce que vous faites.
C'est de vraiment libérer la place Vendôme de ce poison de l'idéologie et de la politisation de la justice qui a rompu la confiance entre les citoyens et la justice. Et la plus belle démonstration, si je puis dire, 2013, le mur des cons, vous vous en souvenez ?
Très bien.
Voilà. Et donc, c'est ça mon rêve.
D'accord. Le livre pour lequel nous vous recevons aujourd'hui a un titre assez long et c'est une parodie volontaire, c'est un hommage aussi, on va expliquer à qui. Ne dites pas à ma mère que je suis chroniqueur sur CNews, elle me croit toujours juge à Hasbrouck, référence directe à Séguéla.
Mais bien sûr. D'ailleurs, je l'ai évidemment prévenu de cet horrible plagiat, hein, en lui demandant de m'excuser, et il m'a répondu « ce titre t'appartient ». Voilà, parce que je le connais personnellement. Très bien, et c'est un homme pour qui j'ai une profonde affection et une profonde admiration, et qui avait écrit, souvenez-vous, en 79, je crois, il avait écrit un best-seller, « Ne dites pas à ma mère que je suis dans la pub, elle me croit pianiste dans un bordel ».
C'est ça. Alors, mais ce qui est assez étonnant, c'est que le sujet, vous l'avez évoqué, est parfaitement sérieux, et même parfois un peu angoissant, et le titre a une légèreté quand même.
Oui, parce que c'est un clin d'œil, voilà, c'est assez news. Vous rasez les murs, complètement. vous êtes regardé de travers dans certains salons ou restaurants parisiens ou certains lieux. Voilà. Et donc, j'ai voulu dire que ça m'est complètement égal, en réalité, et que là où je suis, je me trouve bien. Et d'ailleurs, plus que bien, c'est aussi une des aspirations qui était la mienne pendant toute cette période de justice, magistrature et politique, c'est d'avoir un vrai espace de liberté d'expression. Jamais j'aurais imaginé un jour avoir une chaîne comme CNews. C'est la seule dans le paysage.
Hein. Vous êtes maintenant,
avec vous, bien entendu.
Vous êtes maintenant, entre autres, donc, chroniqueur sur CNews. Mmh. Ça pouvait paraître surprenant après ce que vous avez fait auparavant, mais vous me permettez un court extrait du livre qui l'explique assez bien. Que serait-il resté de ma parole si je l'avais tue, si je m'étais résigné, si je m'étais contenté de commenter le naufrage depuis la berge dans le mutisme ? Dans le TGV, je me remémore cette phrase de Victor Hugo. la censure et le souffle du despotisme, et je me demandais, sommes-nous encore libres de parler ?
Exactement.
C'est ce qui vous a donc lancé. Vous dites néanmoins, si vous m'autorisez une légère contradiction, vous dites que CNews, que vous appréciez beaucoup, et vous êtes légitime complètement là-bas, est une chaîne de la pluralité d'expression. Ce n'est pas tout à fait vrai. Vous savez très bien que, grosso modo, la ligne de CNews, on la connaît, c'est ce qui fait que d'ailleurs les gens ne l'apprécient pas.
Non, mais qu'il y ait une sensibilité.
D'accord.
Qu'il y ait, disons, une certaine ligne éditoriale qu'on entend chez des présentateurs, journalistes, animateurs comme Pascal Praud, Gauthier Lebret, Eliott Deval, etc., et Laurence Ferrari et d'autres, bien entendu. Mais ça, je veux dire, c'est inhérent à tout média. Hein. Ça ne devrait pas l'être, d'ailleurs, pour le média, l'audiovisuel public, qui devrait observer une certaine objectivité et neutralité. Hein. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec vous, cher monsieur. Je pense qu'on peut s'exprimer tout à fait librement. On a de la contradiction. Et d'ailleurs, je suis très souvent sur le plateau de Pascal Praud, vous l'aurez remarqué, avec André Valigny, socialiste.
Oui, il est un peu le seul, quand même, généralement. Il est un peu seul contre tous, le pauvre.
Non, il y a, comment s'appelle-t-il ? Il y a Julien Drey, il y a l'ancien maire de Sarcelles, comment s'appelle-t-il, l'ancien député que je connais très très bien.
Oui, j'ai oublié, mais je vois qu'il va dire.
Et d'autres, je veux dire, non. Et en plus, il y a ceux qui ne veulent pas venir.
C'est vrai.
Qu'on voudrait inviter, qu'on invite d'ailleurs. Je pense à des personnalités. Alors, Emmanuel Macron n'a jamais accepté de venir. Éric Dupond-Moretti n'a jamais satisfait de nos invitations. Et beaucoup d'autres également. Donc, on n'est pas une chaîne d'une opinion, on est une chaîne des opinions.
Nous vous écoutons dans une intervention très récente sur CNews à propos de politique.
C'est le principal enseignement de cette élection. Après l'entrée en force à l'Assemblée nationale au niveau national des LFI, maintenant vous avez cette deuxième étape, l'entrée en force, c'est une première, des LFI dans des élections locales, avec tout ce qu'a appelé Hélène, c'est-à-dire ces villes qui vont être prises par LFI ou ils vont rentrer dans les conseils municipaux. Donc moi, ce que j'en tire comme premier enseignement de ces élections, c'est que la stratégie de Mélenchon, de plus en plus radical, tout ce qui s'est passé avec la Jeune Garde et l'assassinat de Quentin, tout ce qui s'est passé avec les propos qui flirtaient avec l'antisémitisme sur les noms écorchés de Mélenchon, ça a payé.
Car vous n'êtes pas sur CNews comme expert judiciaire. Vous avez une liberté de parole, vous intervenez sur les sujets qui vous conviennent.
En fait, j'ai été recruté par Serge Nedjar, personnellement, comme consultant antiterrorisme. Je sortais de l'Assemblée nationale, j'avais présidé la commission d'enquête sur les attentats de Paris, donc le Bataclan, Charlie Hebdo, etc.
Les terrasses.
Et recruté aussi comme consultant dans le domaine de la justice et de la sécurité. Et c'est vrai qu'au fil des émissions, au fil des ans, ça fait quand même plus de 8 ans que j'y suis, je suis amené maintenant à commenter toute l'actualité, puisqu'on me le demande.
Et c'est d'ailleurs, avec plaisir,
pour moi,
j'imagine.
Une grande satisfaction d'avoir conservé une parole publique.
Vos deux livres, chers amis, vos deux livres ont ceci en commun, qu'ils font ce constat, au fond, un peu angoissant. Et on ne ressort pas de vos livres complètement indemnes. On a une impression d'une certaine chape de plomb qui est sur nous, qui est un peu inquiétante. Diane de Bourguedon, vous parlez de la prolophobie, qu'on peut définir en quelques mots facilement.
Oui, bah, on pourrait aussi l'appeler la haine des ploucs. En fait, c'est une forme d'hostilité qui est vécue de la part des élites. On pourra revenir sur ce que j'appelle les élites à l'encontre de ce qui n'est pas elles, c'est-à-dire les classes moyennes et les classes populaires.
Vous ressentez ça vraiment ? Vous avez cette sensation-là ?
Bah, c'est-à-dire que quand on regarde que ce soit ce qui est pratiqué aujourd'hui dans la justice, la façon dont les médias traitent les affaires qui sortent au grand jour, que ce soit la façon dont le monde de la culture, le cinéma, les séries télévisées, etc., et allant jusqu'à la publicité, le regard qu'ils portent systématiquement sur les Français qui n'ont pas l'heure d'appartenir soit aux élites, soit à l'immigration, sont systématiquement la cible, soit de colibet, soit d'un mépris tout à fait écrasant.
Je lis un bref extrait aussi de votre livre et je pense que Georges Fenech sera assez d'accord. Vous dites « Le wokisme s'impose comme une morale des temps modernes, désignant ceux qui appartiennent au camp du bien et au camp du mal. C'est un essentialisme qui assène qu'un blanc, homme, chrétien, hétérosexuel, sera par nature toujours le méchant, face à un non-blanc, une femme, un musulman, un membre de la communauté LGBT. » Vous y allez quand même avec la hache et vous êtes d'accord avec ça, Georges Fenech ?
Complètement.
Vous ressentez ça ?
Oui, absolument. Ça nous vient des États-Unis. Hein, ça a mis un peu de temps, mais ça a traversé l'Atlantique. Et aujourd'hui, on a ce wokisme qui s'est introduit à l'école, très tôt, hein, même au cours préparatoire.
Bien sûr.
À la maternelle, carrément. Sur tout ce qui est identité sexuelle, identité de genre, etc. On a un wokisme qui a pénétré les esprits, notre langue même. Et je me bats comme vous, d'ailleurs, je me bats contre ces effets pervers. D'ailleurs, les Américains en sont revenus. S'ils ont élu aussi majoritairement Trump, c'est bien contre ce courant-là.
Comment expliquez-vous cela, au fond? Parce que vous dites « on ». De qui parlez-vous? Les élites? Soyons clairs, qui exerce ce mépris? Parce que si c'est juste quelques intellectuels en aparté, ça n'a pas d'importance. Pour que ça influence durablement la société, c'est le fait de qui et pourquoi, selon vous?
Alors, on entend souvent parler de la sécession des élites vis-à-vis du peuple, mais j'ai l'impression qu'on a une exception trop limitée de ce qu'on appelle les élites. Il y a d'une part les élites visibles, celles qui ont la parole dans l'espace public. On pense évidemment aux dirigeants politiques, aux élites médiatiques, et plus largement peut-être à toute une classe intellectuelle de chercheurs, d'écrivains, des personnes dont la parole est publique et est censée être légitime. Mais au-delà de cette élite-là, qui est, j'appellerais, une bourgeoisie plutôt intellectuelle, il faut bien avoir en tête qu'il y a toute une bourgeoisie qu'on appelle, enfin, que j'appellerais d'affaires, une bourgeoisie plutôt de droite libérale, qui en réalité est moins visible et n'a pas forcément accès à la parole publique, mais qui porte le même regard et qui en réalité est très influente, puisque ces personnes siègent dans toutes les directions des grandes entreprises en France, et elles influent notamment sur les discours marketing, publicitaires, elles ont un poids. Donc les deux bourgeoisies, je dirais, intellectuelles plutôt de gauche et d'affaires plutôt de droite, en réalité, sont à l'unisson pour ce qui est de la prolophobie. Elles peuvent avoir des différences d'appréciation pour des questions économiques et sociales, mais en tout cas, pour le regard condescendant vis-à-vis de tous les Français qui ne sont pas eux, elles sont à l'unisson.
Vous partagez ce constat, Georges Fenech ?
Moi, je constate, et je l'ai constaté sur le terrain quand j'étais parlementaire dans ma circonscription dans le Rhône, il y a en réalité aujourd'hui une confrontation entre deux France. La France que vous décrivez à l'instant, celle des élites, la bourgeoisie, des intellectuels, et puis celle des provinces rurales qui sont aujourd'hui mais complètement abandonnées. Le nombre de villages aujourd'hui qui ont perdu leur école ou une classe d'école, qui n'ont plus de maternité à moins de 30, 40, 50 kilomètres, qui n'ont plus de services sociaux, qui n'ont plus de services administratifs, de la sous-préfecture. On voit les choses petit à petit, cette désertification du monde rural est criant aujourd'hui. Moi, j'avais 42 communes dans ma circonscription et les maires venaient me voir régulièrement pour me dire, mais aidez-nous, monsieur le député, il faut absolument qu'on puisse obtenir au moins un bureau de poste pour l'intercommunalité parce qu'on ne sait plus comment faire. Et donc, il y a cette dévitalisation au niveau de l'implantation des services publics, des écoles, des hôpitaux, etc., dans le monde rural, alors que c'est la France, elle est là.
Absolument.
Aussi. Elle est là et elle est bien là, quoi. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe à l'actualité, notamment le prix du carburant, tous ces gens qui sont en grande périphérie urbaine, qui sont dans les villages et dans les faubourgs, vont avoir énormément de difficultés pour continuer à amener leurs enfants à l'école, à travailler, à se faire soigner, etc.
Vous faites une transition remarquable, je vous remercie par avance avec ce que j'avais prévu de faire entendre maintenant, parce que cette colère que vous laissez entendre, elle a explosé brutalement en 2018 avec les Gilets jaunes, vous vous souvenez?
Des centaines de motards au ralenti sur les axes menant à Toulouse. Des Gilets jaunes de tous milieux, dont beaucoup n'avaient jamais manifesté.
Solidarité avec les gens qui ont des difficultés de terminer leur fin de mois. Et voilà, à un moment donné, il faut que les Français se rendent compte qu'il faut sortir de leur canapé et aider les gens en difficulté.
Ces gilets jaunes basques sont installés au péage, proche de la frontière espagnole. Ils bloquent les poids lourds. Objectif, provoquer une réaction des autorités espagnoles.
C'est un gros point de passage et à un moment donné, c'est vrai que c'est l'Espagne qui va plutôt parler au gouvernement que nous, puisqu'il ne veut pas nous écouter.
À Grenoble, la police interpelle le porte-parole des Gilets jaunes. Il est mis en garde à vue pour organisation d'une manifestation illicite. Environ 600 Gilets jaunes ont demandé sa libération devant la préfecture. À Caen, la Marseillaise entonnée face aux forces de l'ordre. 2000 manifestants mobilisés sur la question des salaires.
Quand tu vois qu'il y en a qui gagnent des millions d'euros au bout d'un bureau, et nous, on travaille 40 heures par semaine pour gagner 1500 balles.
Voilà, il n'y a pas que le wokisme culturel, il y a la vie quotidienne et ses difficultés, vous y faisiez allusion. C'est quand même assez bouleversant d'entendre des manifestants qui chantent la Marseillaise face à la préfecture et qui sont quand même réprimés, vous le dites, et tous les deux d'ailleurs dans votre livre, ils sont plus réprimés que d'autres.
Ce sont les oubliés de la République aujourd'hui, les invisibles.
C'est le titre du livre.
Pour ça, oui, c'est vrai.
Enfin non.
Les indésirables.
Indésirables, pardonnez-moi.
C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont mis un gilet jaune, pour qu'on les remarque, qu'on les voit, qu'on entende leur voix. Et j'ai retrouvé le nom du député, hein, c'est François Pupponi.
François Pupponi, voilà, exactement, qui est souvent chez vous, sur CNews avec vous.
Très très bien. Donc c'est ça, en fait, on existe, on a le droit aussi à une part du gâteau de la République, c'est-à-dire un pouvoir d'achat qui nous permette de vivre, non pas plus. On a des gens très très gourmands, en fait, ils veulent vivre de leur travail.
Georges Fenech, vous avez été député pendant deux législatures, vous avez été donc un membre de la représentation nationale, vous n'avez pas exercé le pouvoir, mais vous êtes dans les arcanes du pouvoir. Comment jugez-vous, vous qui devez représenter l'ordre, et en plus magistrat, des manifestants qui ont parfois dégénéré, c'est parfois allé très loin, les excusez-vous en quelque sorte?
Moi j'étais de leur côté, hein. Je vous le dis franchement.
Et on a le droit, étant député, d'être contre l'ordre?
Ah, j'étais de leur côté dans leurs manifestations, dans les motifs invoqués pour manifester. Et évidemment, j'ai condamné, je l'ai commenté d'ailleurs tous les samedis pratiquement sur CNews pendant presque 18 mois, toutes les formes de violence.
Bien sûr.
Bien sûr, condamné. Parce que ces mouvements ont été ensuite noyautés, vous le savez très bien, par des black blocs et d'autres qui n'avaient rien à faire au milieu. Moi, je parle des gilets jaunes historiques, hein, ceux qui sont venus sur les ronds-points pacifiquement dire on existe, voyez-vous. Et je pense qu'on peut craindre, enfin le gouvernement actuel pourrait craindre leur réapparition, hein, parce que aux mêmes causes produisent les mêmes effets, on en est aujourd'hui à la même situation, voire même pire encore.
En effet. Lorsque vous avez vécu, comme nous tous, ces événements, est-ce que ça a été le déclic chez vous qui vous a fait réfléchir à ce sujet qui n'était peut-être pas le vôtre au départ? Est-ce que c'est ça, les gilets jaunes, qui vous ont amené à réfléchir à ça, à cette situation-là?
J'ai une petite anecdote personnelle sur ce sujet. J'avais écrit un texte à l'époque, c'était un petit peu pompeusement appelé J'accuse, dans lequel j'accusais le gouvernement.
Oui, un petit peu, hein, les références un peu élevées.
Voilà, exactement, mais allons-y. Et j'avais écrit ça sur les réseaux sociaux et j'ai pas mal d'abonnés et de suivis. Et en fait, une dame très proche que je connais depuis que je suis enfant, qui m'a reçue chez elle, etc., issue de la très bonne bourgeoisie, m'est tombée dessus en me disant « Vous jetez de l'huile sur le feu, Diane ». Elle me dit ça. Et c'était vraiment quelqu'un que je connais depuis l'enfance. Hein. Et je me suis dit « Mais alors là, il y a vraiment deux camps, en fait. Moi, je suis sensible aux deux de ces personnes, il y a une vraie souffrance qu'ils viennent exprimer, et en fait face à eux, il y a un mur qui est complètement indifférent, qui ne veut pas en entendre parler, qui les accuse de factieux. Et je pense aussi aux mots de Hillary Clinton qui disait « elle est déplorable ». C'est vraiment le même point de vue qu'a une grosse partie, évidemment pas tous, mais une bonne partie des élites vis-à-vis des revendications et des doléances de ces personnes qui, comme le dit Georges à l'instant, ne demandent que à pouvoir vivre décemment de leur travail. C'est pas des revendications d'enfants gâtés.
Mais finalement, le clivage n'est pas ici vraiment un clivage gauche-droite, Georges Fenech?
Non, c'est pas... Les gilets jaunes, c'était apolitique. Et d'ailleurs, ils refusaient d'être récupérés d'une manière ou d'une autre, ou par des partis politiques, ou par des syndicats, d'ailleurs. Et d'ailleurs, les syndicats, pendant près de 2 ans, on les a plus vus, plus entendus. Et c'était le peuple qui était dans la rue. C'était le peuple au sens noble du terme. Sens, je dirais, hugolien du terme.
Bien sûr.
Voilà, c'est gueux, comme disait Victor Hugo. Et cette canaille qui suivait Jésus, cette canaille qui est à l'origine de pas mal aussi de bouleversements, il faut les entendre. Et quand ils réclamaient, et j'étais d'accord avec eux, un référendum d'initiative populaire, moi je suis entièrement d'accord, je pense qu'il ne faut pas avoir peur du peuple. Le peuple, on peut en avoir peur le jour où on essaie de le faire taire. Alors là, ça ne lui plaît pas. D'ailleurs, les révolutions, 1830, les Trois Glorieuses, 1789, elles ont démarré, l'étincelle au départ, c'est quand on a censuré la presse. Donc, on a censuré une voix,
absolument,
et des voix, vous voyez.
Je suppose néanmoins que les émeutes qui ont suivi dans les banlieues, les arrestations diverses, vous ne les jugez pas de la même façon?
Les arrestations dans les banlieues?
Oui, les arrestations, le jeune Naël, vous savez, ces manifestations brutales en 2005, etc. Ces choses qui sont passées brutales de la part des...
Autant je peux comprendre, et je la comprends, la souffrance d'une mère qui a perdu son fils, etc. Autant j'ai été, je peux dire, extrêmement choqué par les prises de position et du président de la République et de l'Assemblée nationale qui qui a accordé une minute de silence à ce jeune mineur qui était un récidiviste, qui, ben non, c'est tragique cette mort, mais qui avait refusé d'obtempérer, vous voyez. Et le président de la République qui avait enfreint, enfin qui avait, je dirais, violé en quelque sorte la présomption d'innocence.
C'est
en
vrai.
Parlant d'un acte inacceptable, etc. Le procès aura lieu bientôt d'ailleurs. Hein. Je me souviens que
Mbappé disant un petit temps, j'ai parti trop tôt aussi.
Oui,
on n'entend pas ça dans l'autre côté en effet.
Mais ce déchaînement, vous vous rendez compte, ce déchaînement de violence pendant 3 ou 4 jours, avec pas un seul point du territoire en France qui ait été épargné. C'est la première fois qu'on voyait des manifestations aussi éparpillées. On s'est demandé d'ailleurs pourquoi. Comment se fait-il qu'il y avait des violences contre des destructions de mairies, d'écoles, de commissariats, un peu partout et pas uniquement dans les banlieues périphériques qu'on connaît habituellement. Ben, moi, j'ai mon explication, je pourrais vous la donner.
Pas à l'instant, mais volontiers un peu plus tard. Pas d'excuses pour ces émeutes-là. Vous n'avez pas la même indulgence que pour les Gilets jaunes non plus, vous, Diane de Bourguedon.
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment l'impression que les dirigeants, il y a des personnes dont ils ont peur. Ils ont peur de certains mouvements de rue et ils n'ont pas peur d'autres. Ceux dont ils ont peur, on a l'impression qu'ils se font tout petits. D'où la phrase d'ailleurs d'Emmanuel Macron qui s'est produite très, très peu après la mort de Naël. Il a pris les devants, je pense, pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de mouvement tel qu'il... En fait, ça n'a rien empêché du tout. Alors qu'en revanche, ceux dont ils ne craignent rien, alors que ce soit les gilets jaunes et puis plus tardivement, plus récemment en tout cas, les agriculteurs, les agriculteurs, là, on sent que la répression, elle est quand même nettement plus musclée. Il y a vraiment... Et en fait, ce qui m'a frappé, c'est que le deux poids deux mesures, en fait, il est tellement systématique qu'il en devient systémique. C'est pour ça que j'ai trouvé le nom prolophobie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous avez tout le temps le même poids deux mesures et que vous le retrouvez quasiment à tous les échelons du régalien et même au-delà, c'est-à-dire que ça forme un système.
Je propose à tous les deux une petite pause légèrement nostalgique sur quelque chose que vous aimez tous les deux, j'imagine, que nous aimons tous, dont nous rêvons encore. Est-ce encore possible ?
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. J'ai connu des paysages, des soleils merveilleux, au cours de lointains voyages, tout là-bas, tout d'autres cieux. Mais combien je leur préfère mon ciel bleu, mon horizon, ma grande route, ma rivière, ma prairie et ma maison. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur.
Charles Trenet, Douce France, c'est vrai que c'est charmant, c'est vrai que c'est très nostalgique, mais de manière un peu provocante, je demande à mes invités, Diane de Bourguedon, Georges Fenech, et si c'était nous qui étions nostalgiques d'une époque qui ne peut plus revenir, et s'il n'y avait pas une mue inéluctable, démographique notamment, sociologique, ethniquement, et qu'on n'y puisse plus rien, est-ce que c'est possible ça?
Non, mais qu'il y ait une évolution de notre pays... C'est tout à fait normal et naturel. Tous les pays du monde connaissent des mouvements de population, des apports de l'immigration. Bon, à la vie, il faut s'en réjouir. Mais quand on en vient à un projet politique, c'est-à-dire de remplacer un peuple par un autre peuple, là, je ne suis plus
vous
d'accord.
Vous dites projet, vous dites que c'est une volonté.
Écoutez, vous n'avez pas entendu Jean-Luc Mélenchon parler de grand remplacement? Il a repris d'ailleurs...
Ah oui, mais il n'est pas aux manettes, il ne dirige pas le pays.
Oui, mais quand vous voyez la politique qui est suivie, en réalité, notamment sous l'ère Macron, vous avez vu l'explosion de l'immigration dans notre pays. Quand vous avez 500 000 entrées régulières par an, plus à peu près 200 000 irrégulières par an. C'est-à-dire que chaque année, vous avez environ 700 000 étrangers qui arrivent, légalement ou illégalement, sur notre territoire. C'est beaucoup plus que la population lyonnaise ou même marseillaise, pratiquement.
Et c'est presque autant que de naissances, même.
Oui, bah exactement. Donc, vous voyez bien que là, il y a un danger immédiat que tout le monde peut voir. C'est un problème de confrontation de culture. On n'a pas le temps ni d'intégrer, encore moins d'assimiler. Et d'ailleurs, ces populations, elles sont tellement nombreuses et regroupées, notamment dans certaines villes aujourd'hui. On a vu ce qui s'est passé à Saint-Denis avec le maire qui vient de prendre cette commune de manière... communautariste, un discours communautariste. Hein. Moi, je le dis. Alors, il se plaint maintenant de CNews comme étant une chaîne raciste.
Oui, le sujet confirme la chaîne. Oui.
Voilà, il y a une espèce de renversement accusatoire des rôles. Mais on voit bien qu'il y a là une forme de séparatisme. Et d'ailleurs, on a voté une loi contre le séparatisme en 2021 et on nous annonce une deuxième loi contre le séparatisme. Chez Macron, on nous a annoncé, enfin pas encore officiellement, mais on entend parler de cette deuxième... C'est qu'il y a bien un problème dans notre pays, des populations qui refusent l'intégration, nos valeurs, qui ne s'associent pas à certains modes culturels, ne serait-ce que dans l'habillement, vous voyez. Il faut s'adapter.
Hein, si tu veux, oui, à Rome, vit comme les Romains.
Ben voilà, vous me l'avez enlevé de la bouche.
Pardonnez-moi.
Non, vous avez raison.
Dites-moi, Diane de Bourguedon, vous nourrissez un peu la même vision que Georges Fenech. Vous avez le sentiment que ceux qui sont victimes de la prolophobie, ce sont les Français de souche et que ce n'est pas le cas des plus récemment arrivés. Vous le dites assez crûment. C'est votre vision.
Je suis assez frappée par la facilité avec laquelle les élites au sens large, hein, donc je répète bien, pas forcément uniquement la bourgeoisie intellectuelle, mais également la bourgeoisie des affaires, s'est approprié le discours woke. Se l'est vraiment complètement approprié, alors que dans le même temps, l'immense partie de cette bourgeoisie est elle-même une bourgeoisie blanche. Donc, si on suit les préceptes du wokisme, ce sont eux, enfin, ils participent en tout cas à la domination, au suprémacisme blanc, comme le disent les wokistes. Mais en réalité, les élites ont été assez malignes, puisque autant une petite part d'entre elles est infiniment et intimement convaincue du bien fondé de cette théorie wokiste. Il y a une part un petit peu de masochisme chez certains à dire oui, nous sommes coupables de tout, nous instaurons...
L'étranger est forcément mieux.
Voilà, l'étranger est forcément mieux, celui qui n'est pas blanc est forcément mieux. Autant une part de cette élite en est intimement convaincue, autant une large part s'en moque un petit peu et ce n'est qu'un affichage. Et pour pouvoir être cohérente tout en défendant le wokisme, elle a trouvé un artifice qui est assez habile. C'est qu'elle a pris le wokisme et qu'en fait, elle l'a détourné vers une partie seulement de la population française. En s'extrayant elle-même du périmètre des coupables, en disant, bah, écoutez, nous sommes du côté des racisés, nous sommes du côté des homosexuels, nous sommes du côté des LGBT, des trans et toutes les causes et toutes les transitions de genre. En revanche, nous vous montrons, nous vous désignons ceux qui sont les vrais coupables, ceux qui sont les racistes, les xénophobes, les misogynes, etc.
Et qui sont-ils ?
Eh bien, ce sont les Français de souche, les Français des classes moyennes et populaires.
Georges Fenech, vous êtes un ancien magistrat, un ancien député, vous êtes maintenant un chroniqueur sur CNews, donc un regard assez large sur l'ensemble de l'actualité. Mais que dire à ceux... Je regardais des interventions que vous avez faites et les commentaires que je voyais sur YouTube dessous. Certains ne sont pas dépourvus de sens. Des gens notamment
J'espère.
Qui disent... Non mais
ah, les commentaires, ah oui, oui d'accord, les commentaires. J'espère
les
aussi.
Les commentaires. Ouais. Y compris ceux qui ne sont pas d'accord du tout. Ouais. Certains vous disent, mais écoutez, il a été élu démocratiquement, Bagayoko, on ne peut pas... Il y a effectivement, vous le déplorez, beaucoup de populations étrangères qui a voté pour lui.
Mais je ne déplore pas son élection.
D'accord.
Qui vous a dit que je déplorais
son
élection?
Non mais je vous laisse développer justement.
Je déplore et je m'élève contre son discours au moment où il prend la mairie, où il dit quoi? Il dit maintenant... tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi n'ont plus rien à faire dans cette mairie. C'est-à-dire qu'il piétine un sacro-saint principe qui est que l'agent municipal, on n'a pas à lui demander comment il vote, c'est un fonctionnaire territorial. Et d'ailleurs, c'est discriminant et c'est puni par la loi. Vous ne pouvez pas, par exemple, révoquer un fonctionnaire pour ses idées ou ses religions ou ses idées politiques,
bien
à partir du moment où il respecte l'obligation de réserve, etc. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit ? Je comprendrais parfaitement que ceux qui ne partagent pas la ligne que nous avons obtenue, gagnée, puissent partir, en les incitant à partir. Et à partir de là, effectivement, on va créer des espèces de territoires perdus, comme on dit, hein, pour la République. Et d'ailleurs, il a été retoqué, il a été sermonné, on peut le dire, par un des ministres de ce gouvernement,
absolument,
M. Amiel, qui leur a dit « Non, ça, c'est pas possible, c'est pas légal, c'est contre ça que je m'élève ». Oui.
Très bien. Il y a une forme de logique. Est-ce qu'effectivement, quelqu'un qui soit issu d'une communauté qui est la plus nombreuse finisse par être élu? Au fond, c'est assez
non,
logique.
Je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est pas un élu d'une... C'est un élu d'une ville. C'est pas l'élu d'une... Il peut pas être l'élu d'une communauté.
Non, je veux dire émanant.
Il est élu pour toute la ville.
Bien sûr.
Quelle que soit sa figuration, sa composition. Alors que là, on a le sentiment que, voilà, ici, c'est l'élection d'un maire qui représente l'immigration... Et les populations discriminées. Mais attends, où on est? On est en France quand même.
J'aimerais vous faire allusion maintenant, Georges Fenech, à quelque chose d'un peu personnel dans votre parcours. Écoutez le point de départ.
Des souvenirs se voient à l'avant du bateau et ce quai qui s'éloigne vers un monde nouveau. Une vie qui s'arrête pour un jour qui commence. C'est peut-être une chance. Yalil, tu n'oublieras pas. Yalil, ces parfums d'autrefois. Yalil, tu n'oublieras pas. Et Yalil, même si tu t'en vas, une nuit pleine d'étoiles sur le port de Tunis et la blancheur des voiles des femmes tenant un fils. Le vent de l'éventail de ton grand-père assis et l'odeur du jasmin.
J'ai pris cette liberté, Georges Fenech, non, en faisant allusion à l'homme que vous êtes et au jeune enfant qui est né et qui a vécu en Tunisie.
Évidemment, cette chanson à chaque fois me provoque une... Je suis submergé d'émotions, je pense à ma mère, à mon père,
j'imagine,
qui ne sont plus de ce monde. Et je garderai toujours ce souvenir de mon père qui rentre dans ma classe. J'étais en CM2, CM1, j'avais 8 ans, et qui me dit « embrasse ta maîtresse ». Qu'est-ce qui se passe? Embrasse ta maîtresse. J'ai embrassé ma maîtresse, j'ai senti qu'il se passait quelque chose de grave. À l'extérieur de l'école, il y avait un taxi, il y avait ma mère, avec un bébé sur les bras, ma petite sœur, notre sœur, moi, mon père, direction Sousse-Tunis, la Goulette, le bateau, Marseille, et derrière, tout abandonné, on a été obligé de fuir en 24 heures, notre terre natale, où il y avait nos morts qui étaient enterrés, etc., puisque c'était la décolonisation.
Mais ce fut quand même moins violent qu'en Algérie, malgré tout.
Oui, mais on parle jamais de ce qui s'est passé aussi en Tunisie, les événements de Bizerte, il y a eu beaucoup de morts aussi. Moi, j'ai un oncle qui a été tué aussi. Donc, mais évidemment, c'était pas la guerre, c'était les combats. On parlait de la guerre d'Algérie, des combats de la Tunisie et du Maroc. Et donc, comment voulez-vous qu'un jeune Français, j'étais né dans un protectorat français, mon père était français aussi, mon grand-père. Comment voulez-vous, ayant découvert la France, que je la connaissais uniquement à travers les livres et les cahiers, je découvre Marseille, d'ailleurs c'était un mois de février 1963, paraît-il, l'hiver le plus froid du siècle.
Hein. Pas de chance.
C'est, vous pouvez le vérifier. Donc,
pour la première fois de ma vie,
je voyais la neige et tout. Comment voulez-vous que je ne puisse pas aimer cette France qui nous a tout apporté? Et moi, d'ailleurs, je suis aussi le produit, comme on dit, de l'école républicaine, puisque mes parents étaient dépossédés de tout.
Hein. J'allais y venir, parce que vous aviez un certain confort de vie en Tunisie.
On avait un certain confort de vie. Mon père, mes grands-parents étaient oléiculteurs.
Et votre père a dû travailler à Givors comme ouvrier dans ma lyonnaise.
Oui, bien sûr.
Pas le choix.
Donc ça a été une rupture terrible. Et voilà, bon, après, on s'est reconstruit. Il y a eu l'accueil qui n'était pas toujours très facile au départ, hein, ces pieds noirs.
Et votre ascension sociale, enfin, la question d'une bêtise psychologique sans nom, banale, mais est-ce que c'est une espèce de revanche sur ce début
sans
de vie?
Sans doute. Je l'écris, d'ailleurs, je l'ai écrit. Je pense qu'il fallait prendre une revanche sur la vie. C'est pour ça que je suis très meurtri quand j'entends le président de la République parler des crimes contre l'humanité qui ont été commis dans ces pays. Bien sûr qu'il y a eu des crimes en 1830, Bugeaud, les enfumades. Mais toutes les colonisations se sont accompagnées de violences. Mais après, c'était devenu une présence française. Moi, j'ai vécu dans un pays où toutes les communautés étaient en parfaite harmonie. C'était une présence. On a construit les autoroutes, les écoles, les universités. On a porté la vaccination. On n'était pas des criminels nazis. Là-bas, on était un pays totalement intégré localement, quoi. C'était.
Mais vous êtes devenu magistrat. C'est un choix très particulier. C'était pas la libre entreprise. C'était finalement le service public. Est-ce un hasard ou bien vouliez-vous justement délibérément intégrer la structure, la colonne vertébrale française, le service public?
Oui, j'avais très tôt, lors de mes premières années de droit à Lyon, à la faculté Jean Moulin, eu le désir d'intégrer cette fonction de magistrat qui me paraissait être une fonction vraiment d'autorité, de responsabilité, de pouvoir.
Très noble.
Juger ses concitoyens, c'est quelque chose. Hein, d'avoir
c'est lourd, hein.
Entre ses mains un pouvoir de mandat de dépôt, vous imaginez, immédiat. Et puis ce qui m'a complètement décidé, parce que j'hésitais entre avocat, magistrat, ce qui m'a complètement décidé, c'était un soir du 2 ou 3 juillet 1975, quand j'apprends sur Europe 1, je m'en souviens très bien, la mort du juge du premier juge d'instruction lyonnais, François Renaud, dit le shérif, abattu par des tueurs montés d'observance alors qu'il regagnait son domicile. Et là, je me suis dit, c'est là, il faut que j'aille reprendre. Vous savez, quand vous avez 20 ans,
bien sûr.
On va reprendre ce flambeau. Et je suis devenu juge d'instruction à Lyon. Et il se trouve que je me suis retrouvé dans le bureau de ce juge, qui était un homme remarquable, et que j'ai hérité de son dossier pour essayer d'élucider
mais
cette affaire.
Écoutez, Georges Fenech, on pourrait croire qu'on a répété cette émission, mais on ne l'a pas répété.
Incontestablement, les meurtriers du juge Renaud sont des professionnels. Il était 2h du matin quand 4 hommes à bord d'une Tonus se sont approchés de lui. Il rentrait à son domicile en compagnie d'une jeune femme, d'ailleurs le seul témoin du meurtre. Les tueurs ont ouvert le feu. Le juge Renaud a essayé de s'abriter derrière une voiture en stationnement, mais les gangsters ne lui ont laissé aucune chance. On a retrouvé une dizaine d'impacts de balles. Et pour le moment, la seule certitude que l'on ait, c'est que le meurtre est lié à la profession de la victime. En effet, le juge Renaud s'était occupé des affaires les plus retentissantes de ces dernières années à Lyon. On peut penser à la bande d'Alain Benjelloul, un gangster chevronné qui a été condamné hier à 20 ans de réclusion par la cour d'assises du Rhône. On peut penser également au gang des Lyonnais soupçonnés d'avoir participé au hold-up de Strasbourg, dont une partie est encore sous les verrous.
L'affaire du juge Renaud, spectaculaire, importante, dans le Lyon de la fin des années 70, qui finalement n'a jamais été complètement éclaircie. Vous êtes parfaitement bien placé pour le savoir. C'est un non-lieu finalement.
Oui, j'ai signé La mort dans l'âme, un non-lieu en 94. On avait des certitudes, comme on dit, policières, par les informateurs, des recoupements, mais on n'a pas pu ramener le moindre commencement de preuve qui aurait permis à un procès de se tenir. Voilà, c'était un échec cuisant, d'autant plus que ce magistrat était un magistrat hors pair, qui avait été dans le maquis, dans Saône-et-Loire, en résistance. Il avait remonté toute une colonne allemande à moto, mitraillette à la main. Enfin, c'était un homme extrêmement courageux et qui luttait contre la pègre lyonnaise d'une manière un peu particulière. C'est pour ça qu'il avait été surnommé le shérif.
Il y a d'ailleurs un film qui l'imite vaguement à Patrick Dewey, très vaguement, mais
ouais,
qui
ouais,
l'appelle comme ça.
Le juge Fayard dit le shérif, qui était un film d'Yves Boisset. Et je peux vous dire que pendant 10 ans, j'ai fait mon maximum. Moi, je n'étais pas le premier juge d'instruction. Hein. J'ai été le 5e juge d'instruction qui a instruit cette affaire. On a vraiment, avec la police judiciaire, fait le maximum. Je sais que la famille n'est pas convaincue. Ça, c'est là, ça les regarde.
C'est très frustrant, non?
C'est décevant parce que vraiment, tout a été mis pour...
Vous avez des convictions intimes, quand même?
Oui, je sais qui a fait le coup.
Non.
Oui, mais je n'ai pas pu le prouver.
Et maintenant, vous le diriez?
Je ne peux pas le dire comme ça.
D'accord.
Mais bon, ça vient du gang des Lyonnais, bien sûr.
Bien sûr.
C'est, il est mort professionnellement. On a les noms, on sait qui a fait le coup.
Qui pourtant bénéficie d'une espèce de romantisme, le gang des Lyonnais. Alors quand il est, se sont détruits. Hein.
Oui, d'ailleurs, Marshall a fait un film Vidal, sur les Lyonnais, mon Vidal, qui est mort il n'y a pas longtemps. J'ai trouvé que c'était un peu limite. Lui-même m'avait confié, M. Marshall, d'ailleurs, qu'il a fait arrêter le film à un certain moment, parce que lui-même est un ancien flic, vous savez.
Diane de Bourguedon qui est avec nous, on boit un peu les paroles de Georges Fenech sur ce passé judiciaire avec, et puis son parcours personnel qui est quand même assez touchant, assez émouvant. Vous n'avez pas le même vécu, mais dans votre livre sur la prolophobie, vous évoquez aussi la justice comme étant une des armes qui s'exerce selon vous de manière injuste.
Ben, je reprends, tout le monde connaît évidemment la fameuse harangue de Baudot qui a marqué, je pense, une rupture.
Qui est ce Baudot? Vous en parlez tous les deux dans vos livres, je ne le connaissais pas.
Oswald Baudot.
Diane, laissons faire Diane de Bourguedon.
Je préfère vous laisser
Oswald Baudot était un magistrat, de grande qualité d'ailleurs, qui s'était adressé à des auditeurs de justice à Marseille, qui venaient de terminer l'école, la magistrature, qui allaient prendre leurs fonctions, en leur adressant une harangue, un sermon sur la montagne, qu'il faut lire entièrement, c'est un exercice de style incroyable, et qui est connu sous le titre de « Soyez partiaux ». Il leur dit « Attention, soyez partiaux, soyez les défenseurs naturels de la femme contre le mari, les défenseurs naturels de l'enfant contre le père, du salarié contre le patron, du voleur contre la police et du plaideur contre la justice. » Ça se termine comme ça.
C'est cette fin-là qui est contestable. Le reste, c'est presque touchant. C'est le chevalier qui défend le faible et l'orphelin, pourquoi pas? Mais la fin, effectivement, ce que vous évoquez, le voleur contre la police, pas possible. Ça.
Mais oui, c'est-à-dire qu'on déconstruisait tout le système répressif en France. Et d'ailleurs, on en paye aujourd'hui les conséquences parce que toutes ces promotions qui sont passées à l'école de la magistrature ont été biberonnées à cette fameuse harangue de Baudot. C'est la fameuse culture de l'excuse qui va rentrer dans les tribunaux et la chancellerie avec l'arrivée de Robert Badinter et de la gauche au pouvoir en 1981.
Oui, Diane de Bourguedon, donc c'est Baudot, nous en parlions.
Effectivement, j'ai fait ce petit exercice amusant dans mon livre. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la dimension du wokisme est venue interférer, en tout cas accélérer cette partialité. Et j'ai réécrit la harangue de Baudot à la sauce wokiste. Ah. Donc c'est préférer le non blanc au blanc, préférer, alors on a toujours la femme face à l'homme, ça reste une constante, préférer l'étranger face aux Français, etc. Et en réalité, on a l'impression qu'aujourd'hui, une grosse partie de la magistrature, ce qu'on appelle les juges rouges, en fait, est soumise à cette
Je vais m'insurger. Je crois que ce n'est pas vrai. Je crois que ce n'est pas vrai. Alors, je ne suis pas expert, mais j'en parle. J'ai des gens très proches de moi qui sont dans la magistrature et qui m'envoyaient justement peu de temps avant cette émission. Ils me disent, mais les dernières élections, c'est 60% pour le syndicat de droite. Donc non, parler du juge rouge globalement, c'est injuste. C'est pas vrai.
Je ne peux pas vous laisser dire ça.
Ah.
Il y a un syndicat majoritaire qui a fait 60% à peu près, qui est l'USM, l'Union syndicale des magistrats. Si vous leur dites que c'est un syndicat de droite, ils vont tomber
dessus. Enfin, c'est pas le fameux SM qui est de gauche.
Alors, l'USM, ils ont fait 33-34%, je crois, aux dernières élections, ce qui est déjà énorme, un tiers, vous vous rendez compte, qui est un adepte de cette harangue, de cette culture d'excuses, et qui la met en application. Mais l'USM, je dirais, il y a une consanguinité entre le SM et l'USM, il y a des passerelles. D'ailleurs, si nous étions créés, quand j'avais pris la présidence de mon syndical, l'association professionnelle des magistrats, l'APM, qui a tout de suite été considérée comme d'extrême droite, etc., pour essayer de nous discréditer, c'était en réaction au fait que l'USM était devenu, d'ailleurs, leur président était devenu directeur de cabinet de Robert Badinter. Il y avait c'était congénital entre les deux, si vous voulez. Donc, en fait, ce courant d'une gauche judiciaire laxiste, celle du mur des cons, etc., elle va bien au-delà des 30% qui sont un résultat purement syndical à une élection syndicale.
Je comprends, mais parler de manière générale, et ce n'est pas contre vous, mais de définir les juges actuels comme une horde de rouges me semble quand même plus qu'excessif. Il y a beaucoup de gens qui font normalement leur travail, qui sont respectueux, la
bien
majorité.
Sûr.
Beaucoup.
Évidemment, bien sûr qu'il faut saluer un métier qui est noble, difficile, il y a des gens de très grande qualité, mais que malheureusement, il y a une idéologie qui, gangrène l'institution judiciaire.
Mais moi, je cite quelques exemples dans mon livre de différences de traitement entre des affaires qui ont des points de comparaison évidents. Donc, je cite un exemple d'un homme qui a blasphémé en brûlant un Coran devant une mosquée et qui était de manière évidente atteint de maladie mentale. Il était schizophrène, il était même sous curatelle, je me semble. Et on ne lui a pas reconnu l'irresponsabilité pénale, alors que quelques mois plus tôt, le procès d'Alban Gervaise, qui avait donc été poignardé sous les yeux de sa fille à la sortie de l'école par un homme, celui-ci a été reconnu irresponsable pénalement alors qu'il n'avait aucun antécédent psychiatrique. Donc les cas sont pas forcément toujours très facilement comparables, mais là il me semble quand même qu'on peut faire des points de comparaison, puisque si vous mettez en regard la gravité des faits, il n'y a quand même pas de comparaison. Donc dans un cas, irresponsabilité pénale, dans l'autre non. J'avais également, en m'intéressant à ce sujet de l'irresponsabilité pénale, je me suis rendu compte qu'il y avait entre 2019 et 2023, il y a eu une augmentation de 60% du recours à l'irresponsabilité pénale. Donc on a l'impression qu'il y a toute une partie des juges qui n'a de cesse de vouloir toujours alléger ou supprimer complètement les peines en trouvant que ce soit irresponsabilité pénale, méconnaissance par les services de police, expression d'un regret. On a vu ça notamment pendant la fête de la Ligue des Champions qui a donné lieu à des dégradations absolument incroyables. Déclaration très forte le lendemain du président de la République. Et puis dans les fêtes, il y a eu très peu de peines prononcées, très légères, y compris lorsqu'il y a eu des violences sur des forces de l'ordre. Donc c'est...
Georges Fenech, vous avez forcément un regard personnel, puisque vous avez été magistrat si longtemps. Est-ce que cette analyse-là, vous la partagez ?
Oui, je la partage. Je voudrais rappeler, par exemple, le non-lieu, pour moi, scandaleux, dans l'affaire Sarah Halimi, qui est défenestré parce que l'auteur, Traoré, s'était imprégné de cannabis juste avant. D'ailleurs, il a été relâché, il a recommencé derrière.
Mais au fond, qu'est-ce que vous voulez dire tous les deux ? Est-ce que vous voulez dire qu'il y a des espèces de consignes de manière officielle, ou bien c'est quelque chose qui est poreux, une idéologie un peu molle, qui fait que les gens jugent avec un regard différent ? Il n'y a pas d'ordre qui sont donnés à la magistrature de sanctionner moins tel ou tel groupe ?
Ah bon ?
Je pose la question.
Eh ben, je vous réponds. Alors, à suite de l'affaire, vous vous souvenez des émeutes dont on parlait tout à l'heure, à suite de l'affaire Nahel, le garde des Sceaux, pour une fois, je veux lui rendre hommage, Éric Dupond-Moretti, diffuse une circulaire à tous les procureurs de France en leur disant « fermeté contre les auteurs, comparution immédiate, peine ferme, etc. » D'accord ? Ce sont des instructions générales, des circulaires générales. Le syndicat de la magistrature, ça c'était inédit, le lendemain, pond sa propre circulaire, il appelle contre-circulaire, vous imaginez la séparation des pouvoirs, contre-circulaire au garde des Sceaux, intéressez-vous davantage, enfin je caricature à peine, aux violences policières, vous vous rendez compte, des violences policières, et non pas aux violences de ces, finalement, révoltés, c'est même pas des émeutiers, ils les appellent des révoltés, ceux qui sont victimes de nos péchés coloniaux, etc. etc., etc. Non, ne les trompez-vous, les décisions, elles se prennent dans des forums, dans des agora, dans des congrès syndicaux, où on adopte une ligne politique de la politique, ce que doit être la politique pénale de notre pays, alors que la politique pénale, elle doit être définie par la représentation nationale.
Oui, mais le parquet et le juge du ciel, c'est différent. Certains sont inféodés, les procureurs sont inféodés au ministère de la Justice.
Vous croyez qu'ils sont inféodés ? Je vous signale qu'on a supprimé avec Mme Taubira les instructions individuelles. Le garde des Sceaux ne donne plus aucune instruction dans aucun dossier. À l'époque, moi j'ai connu l'époque Pierre Maignery.
C'est plutôt bien donc ça.
C'est votre avis.
Non, mais, je vous demande.
Je ne sais plus. J'avais pensé aussi à un moment, mais vous savez, quand vous avez des procureurs qui, chacun dans leur ressort, peuvent adopter une ligne politique pénale, est-ce qu'il n'y a pas une risque de rupture d'égalité des citoyens ? Voilà. Le parquet doit être un et indivisible, il doit avoir une seule politique pénale sur l'ensemble du territoire. L'ancien système, c'était les instructions adressées au parquet étaient versées de manière transparente et contradictoire dans le dossier. Mmh. Ce qu'il fallait éviter, c'était des pressions, etc.
Mais donc,
il ne pouvait pas dire que le parquet n'est pas inféodé, ne serait-ce que même dans son mode de nomination, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun garde des Sceaux qui nommerait un procureur sans l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature.
On va sortir un instant du sujet justice pour reparler avec Diane de Bourguignon des indésirables, les prolétaires que vous estimez victimes de cette terrible injustice. Je me demande un peu s'il n'y a pas aussi une espèce de romantisme a posteriori de la vie du prolétariat. Je voudrais qu'on écoute ensemble un témoignage que je trouve assez émouvant.
Qu'est-ce qui est le pire ? Le mal de dos ? Les insomnies liées au travail posté de l'industrie ?
Non, le pire, c'est la résignation, se contenter de ce qu'on a, alors qu'on en a des talents souvent insoupçonnés. Voilà ce qui est le pire, c'est une frustration indescriptible de faire un travail répétitif, dénué de sens, quand on a des idées plein la tête, mais le cerveau embué. Zola, Hugo ont déjà écrit à ce sujet il y a des décennies, mais rien n'a changé. Bien sûr, il y a eu les 35 heures, les congés payés et autres poudres aux yeux, mais si on compte 10 heures au bas mot entre la préparation, la route aller-retour, les heures de travail et 8 heures de sommeil, si toutefois on y parvient, que nous reste-t-il ? 6 heures de vie pour nous ? Heures qu'on consacre à la vie de famille, si les horaires sont compatibles, aux tâches ménagères et autres corvées. Et pour finir, il nous reste 45 minutes pour s'abrutir devant Netflix avant de recommencer ce cycle infernal. Si on a la chance de travailler dans les hautes sphères, on travaille pour un capital et une reconnaissance certaine, mais pour ces ouvriers, qu'en est-il ? Des invisibles de la société pour les plus chanceux et des oubliés méprisés pour les autres. Loin de moi de propager des idées gauchistes, je ne suis pas politisée, je suis simplement submergée.
Ce n'est pas un travail d'acteur, c'est une véritable lettre d'un ouvrier qu'il avait écrit. C'est, à moins d'avoir un cœur de pierre, on est quand même touché. Donc on déplore la brutalité qui s'exerce contre le prolétariat, mais la vie du prolétariat, c'est ça aussi, même quand tout marche bien, c'est cette souffrance-là aussi. Même si on les traite correctement, il ne faut pas l'oublier, ne pas être trop romantique, non ?
Oui, alors il y a toute une question qui a été très, très largement étudiée, qui est celle aussi du sens du travail. On est aujourd'hui dans une économie très fortement globalisée, il y a des tas de zones qui ont été désindustrialisées, donc pour ces personnes-là, l'avenir est assez sombre, assez peu de perspectives. Ils ont ils offrent une vie qui, à leurs enfants, qui n'est pas celle que nécessairement ils souhaiteraient. Et pour tous les autres, il y a quand même le sentiment, enfin, il y a eu quand même une volonté de tertiariser fortement l'économie française. Aujourd'hui, on sait que l'essentiel de la valeur ajoutée en France, elle est produite dans les grandes agglomérations. Donc ça conduit aussi à négliger finalement les autres territoires. Et tout, on sait, il y a des tas d'entreprises qui ferment, qui sont délocalisées. Cela contribue à une perte de sens très généralisée.
Mais est-ce que ça n'est pas malheureusement inhérent au capitalisme d'aller vers le profit et des moindres coûts ? Et donc, délocalisons, allons faire produire en Roumanie, c'est 3 fois moins cher qu'en France. Et comment lutter contre ça sans devenir l'État autoritaire ? C'est une vaste question, Georges Fenech. Mais...
Écoutez, moi je ne suis pas contre le capitalisme. Je suis même pour le capitalisme, pour le marché libre.
J'entends bien.
J'ai une vision libérale de l'économie. Par contre, je suis très critique vis-à-vis de la mondialisation et de cette concurrence sauvage... Et de tous ces traités que nous, je pense à nouveau à nos agriculteurs, Mercosur et autres, que nous passons avec des pays avec des concurrences déloyales parce qu'ils ne sont pas soumis aux mêmes normes. Et si on s'est désindustrialisé, c'est aussi à cause de ça, à cause de cette concurrence déloyale avec évidemment les charges et les normes qui ne sont pas les mêmes, les salaires qui ne sont pas les mêmes. Et donc il faut avoir un minimum de protection au niveau européen de l'outil de travail. Pourquoi notre pays c'est désindustrialisé de cette façon-là. On essaye maintenant d'enverser la vapeur. Pourquoi notre pays a vu notre agriculture fondre Il y a à peu près 2 exploitations par jour qui ferment en France.
Et les suicides d'agriculteurs sont...
Oui, il y a un suicide tous les 2 jours à peu près d'agriculteurs. C'est terrible, ce sont des chiffres qui sont terribles. Et donc,
mais est-ce que c'est réversible ? Parce que finalement, on fait un constat tous les deux qui fait mal, mais est-ce qu'on peut faire autrement ?
Mais à condition d'en avoir la volonté. Pour l'instant, je ne vois pas la volonté. Si, il va y avoir une campagne présidentielle. Dans un an, pratiquement jour pour jour, il y aura un nouveau président de la République, Dieu soit loué, j'allais dire. Il y aura un nouveau président de la République. Et tout dépendra, évidemment, du vote des Français. Qu'est-ce que l'on veut aujourd'hui ? Est-ce que l'on veut continuer cette politique-là ou est-ce qu'on veut une rupture, vraiment une rupture, pour redonner le sens au travail ? Défendre les valeurs, protéger nos territoires, et ça, tout dépendra évidemment de celui qui, le prochain locataire d'Élysée.
Je voudrais rebondir aussi là-dessus. Il y a quand même une volonté à partir des années 80 et puis après croissante dans les années 90 et 2000 de transformer les pays européens pays producteurs à des pays de consommateurs. Aujourd'hui, on voit qu'on est complètement dans l'ornière. Donc, il serait temps, à mon avis, de changer de paradigme. Il y a une perte de sens, en fait, qui est générale, et puis également une perte d'argent, puisqu'aujourd'hui, nous sommes dépendants, notre économie est dépendante d'autres pays. On importe, notre balance commerciale est négative. Donc, en effet, moi aussi, j'aspire à ce que ça change aux prochaines élections. Il pourrait, si vous voulez, Pompidou, par exemple, et De Gaulle, même auparavant, avait entamé d'immenses programmes volontaristes étatiques pour développer l'industrie. Il y avait une véritable volonté.
Il y avait des plans,
Des plans, et si vous voulez, je pense que ça peut contribuer aussi à redonner un élan dans un pays. Moi, j'ai une anecdote qui me frappe souvent. J'ai un ami qui me racontait que son grand-père était tout petit ouvrier dans une chaîne de fabrication, mais pour le TGV. Et il me disait qu'il trouvait un véritable sens à son travail parce qu'il savait que c'était pour construire quelque chose qui était absolument prestigieux, qui était le TGV, que beaucoup de pays enviaient et nous envient d'ailleurs toujours aujourd'hui. Il y avait cette fierté-là. Et je pense que cet élan peut être trouvé notamment dans des grands projets industriels que la France pourrait porter, parce que Dieu sait que nous avons des fleurons et des domaines d'expertise que nous envient nos voisins.
La perte de travail, ce sont des familles entières dans la souffrance. Ça peut aussi inspirer des artistes. Écoutez cette chanson.
Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées, une flamme orange dans le ciel mouillé, on dirait la nuit, le vieux château fort, bouffé par les ronces, le gel et la mort, un grand vent glacial. Fais grincer les dents, monstre de métal qui va dériver. Je voudrais
travailler encore,
forger l'acier rouge
avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore,
acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir. Les soleils très rares, comme une tranchée rouge, saignée sur l'espoir. On dirait le soir, des navires de guerre. Battu par les vagues, rongé par la mer, couché sous le flanc, giflé des marées, vaincu par l'argent, les monstres d'acier voudraient
travailler encore,
forger l'acier rouge
avec mes mains d'or.
Si rouge, répondez-le.
Et maintenant,
je peux plus exister là. Je peux plus habiter là.
Je sais plus à rien, moi. Y a plus rien à faire.
Quand je fais plus rien, moi, je coûte moins cher que quand je travaillais, moi, d'après les experts. Je peux plus habiter là, je ne sers plus à rien moi, il n'y a plus rien à faire, je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Voilà, une chanson qui touche profondément, je trouve, une belle réussite artistique de Bernard Lavilliers qui dit de manière plus poétique ce que nous évoquons ensemble avec Diane de Bourguedon, Georges Fenech, à savoir les souffrances du prolétariat, parfois privées d'emploi et souvent méprisées, c'est le sujet de votre livre. Parlons cette chanson, non?
Elle est très, très touchante, effectivement.
Mais j'en reviens à ce qu'on disait auparavant. Est-ce que la solution, celle que vous évoquiez, est-ce que c'est la solution qui aurait votre agrément, Georges Fenech, ça serait de revenir à... Bien sûr, vous défendez le capitalisme, c'est légitime, sans doute, je pense.
Que pas le capitalisme sauvage. Hein.
Voilà. Donc,
ordonné,
le gaullisme avec le plan,
avec les droits
est-ce
sociaux.
Que c'est ça qui est bien est-ce que ce sera la solution?
Et bien sûr, il faut avoir un programme, il faut avoir une vision. Et là, aujourd'hui, ça fait maintenant presque 10 ans, qu'on ne voit pas quel est le cap, voyez-vous. où on le voit trop bien, malheureusement, puisqu'on constate un échec terrible sur tous les plans. Notre pays va très très mal.
Est-ce que le mal n'est pas même plus ancien que ça? C'est pas tout uniquement la responsabilité d'Emmanuel Macron.
Il vient plus loin, mais ça s'est beaucoup aggravé, quoi. Énormément aggravé. Regardez notre dette, le déficit public, la pauvreté. Il y a 10 millions de Français qui vivent au seuil de pauvreté aujourd'hui, il faut le savoir. Regardez nos services médicaux, regardez notre justice, regardez notre école. Enfin, il n'y a rien, j'ai beau regarder dans tous les sens, je ne vois rien pour avoir une petite lumière d'espoir aujourd'hui. C'est pour ça que je pense vraiment que 2027, c'est l'année ou jamais. Il va falloir vraiment sortir de cet entre-deux, de cette temporisation, de cette, on en a parlé, autoflagellation permanente, repentance. Il faut qu'on retrouve la fierté d'être français, la fierté de notre pays. Et si on veut aller de l'avant, il faut que les dirigeants montrent cette direction.
Et ce n'est pas le cas pour l'instant, semble-t-il. Dans votre livre, Diane de Bourguedon, j'ai retenu encore un petit extrait. Vous faites une citation d'un auteur, Éric Desmonts, qui plante le décor d'une des villes moyennes, un peu désertées à tous égards par le service public, par beaucoup de choses. Les commerces du centre-ville ne subsistent plus qu'un boulanger qui fait point relais, un coiffeur mixte et le café-tabac-restaurant Le Central. Dans la rue principale, les vitrines sont poussiéreuses, les rideaux métalliques sont restés tirés. Constat accablant, on ne ressort pas très gai de votre livre quand même, avouons-le.
Bah, écoutez, j'en suis la première navrée, je dois vous dire. J'aimerais que la France, moi j'ai un fils qui est adolescent, j'aimerais qu'il vive dans un environnement plus heureux et qui porte plus d'espoir. Tout à l'heure, on parlait des services publics en fait qui disparaissent. On a l'impression que la bourgeoisie finalement organise tout le système pour ses propres besoins. Donc les centres-villes, les grandes agglomérations ne sont pas dépourvues en services publics. Tout est très dynamique, les commerces, etc. Tout se passe très bien. En revanche, petit à petit, comme les personnes de la France périphérique, pour reprendre le terme de Christophe Guillouis, ne participent plus autant à la création de valeur que les grandes agglomérations, on a l'impression que, inconsciemment, bien entendu, il y aurait cette idée que finalement, il nous coûte cher, donc on ne va pas en plus aller leur permettre d'avoir des services de proximité. On va au contraire désengager l'État de ces zones-là. Et tout aujourd'hui est de plus en plus concentré dans les grandes agglomérations.
Georges Fenech, vous pensez qu'il y a un tel cynisme chez les dirigeants? Ça va jusque-là?
Un cynisme chez les dirigeants?
Oui, à ce point-là?
J'espère que non. Non, vous croyez qu'il y a un cynisme auprès des dirigeants à ce point-là?
Arrêtez de rire. Vous savez qu'à la radio, l'ironie ne passe pas forcément.
Non,
je ne vois
non,
pas vos regards.
Non, mais je ne sais pas quoi vous répondre. J'espère qu'on aura en tout cas une classe dirigeante soucieuse aussi du bien-être de ceux qui font vivre l'entreprise. Et donc, ça commence d'abord par un pouvoir d'achat. Mais ça, ce n'est pas uniquement l'entreprise. C'est aussi la question de la responsabilité gouvernementale, des budgets, les impôts, la taxation... tout ça fait qu'en réalité, il reste peu grand-chose à la fin du mois.
Actuellement, Georges Fenech, vous êtes chroniqueur sur CNews, ce qui ne le serait pas.
Mais... Et Europe 1.
Mais certains ont oublié, peut-être, que vous avez été député. Vous avez participé au système de manière très directe. Écoutons Georges Fenech à l'Assemblée.
Si, la parole est à Monsieur Georges Fenech.
Oui. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Le Premier ministre a déclaré devant nous hier que la France était en guerre contre l'islamisme radical. Nous le soutenons dans sa volonté de protéger nos valeurs et nos compatriotes. Et nous ferons nos propres propositions en ce sens. Mais dans ce contexte d'union nationale, je m'étonne, Madame la Ministre, et sans esprit polémique, croyez-le bien, que des dernières instructions de votre ministère adressés aux procureurs et qui, à l'évidence, vont à l'encontre de ces objectifs. En effet, dans une circulaire du 26 décembre dernier, vous demandez à ce que tous les détenus, purgeant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, puissent bénéficier aux 2/3 de leur peine d'une libération sous contrainte mais sans condition, puisqu'ils n'auront même pas l'obligation de produire un projet de réinsertion professionnelle. Selon vos propres estimations, Madame la Ministre, ce seront quelques 20 000 détenus qui vont prochainement recouvrer la liberté et donc faire courir un nouveau risque à nos concitoyens.
C'était Georges Fenech à l'Assemblée, il est sur le plateau avec nous, avec Diane de Bourguedon. Georges Fenech, je reprends un extrait de votre livre « Ne dites pas à ma mère que je suis juge, que je suis chroniqueur sur CNews, elle me croit toujours !» Juge Hasbrouck. Et vous dites vous-même, alors que vous avez été député de Mangeat, vous dites vous-même, quand la France veut reprendre le contrôle de ses frontières, elle se heurte aux accords de Schengen. En économie, les règles de Maastricht et du pacte de croissance imposent aux États des seuils de déficit et d'endettement. Autrement dit, quelle est notre autonomie très faible? Et autrement dit, à quoi sert l'Assemblée finalement, l'Assemblée nationale?
Écoutez, il faut que nous retrouvions notre souveraineté, la France.
Comment? Ça, c'est le vœu pieux, mais comment? Sous quelle forme? Un Frexit?
Il faut que... Non, moi je suis pour... j'ai toujours partagé l'idée européenne, mais une idée européenne raisonnable et préservant notre souveraineté. C'est l'Europe des nations, voyez-vous. Donc, et non pas une Europe fédérale. Or, aujourd'hui, on a transféré, d'ailleurs dans le dos des Français, hein, parce que vous vous souvenez... Le référendum qui n'a pas été respecté.
Bien sûr, oui.
Le traité de Lisbonne, etc. Donc, il faut reprendre notre part de souveraineté sans laquelle on ne pourra pas améliorer la situation, notamment en matière de lutte contre l'immigration.
Mais comment le faire? L'intention est bonne, mais comment, sur le plan pratique?
Comment le faire? Dénoncer un certain nombre de traités et de conventions européennes. Moi, je ne serais pas hostile à une dénonciation de la France, par exemple, de la Convention européenne des droits de l'homme, qui nous empêche de lutter plus efficacement contre des sources d'immigration contre lesquelles on peut pratiquement rien aujourd'hui, notamment le regroupement familial, vous voyez.
Mais la signature d'un État l'engage quand même. Comment on peut...
La signature, comment faire l'engage, mais ça peut se retirer. Il y a des pays qui l'ont fait. Hein. Il y a des pays qui ont demandé l'inapplication d'un certain nombre de traités. Il faut dénoncer ces traités. Il faut que nous retrouvions dans le cadre d'une Europe solidaire qui protège aussi ses frontières, qui valorise le travail en Europe, l'industrie, la création, les richesses, qui prennent le virage numérique, ça n'en a pas parlé, mais moi ça me paraît l'essentiel de tout. Hein. Aujourd'hui, l'Europe est vraiment absente de cette évolution, cette révolution numérique qui nous attend. Vous avez remarqué que dans les GAFAM, il n'y a pas une lettre européenne. GAFAM, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft.
Exact.
Chercher une lettre européenne, il n'y en a même pas une.
Et aujourd'hui, dans les champions de l'intelligence artificielle, il n'y a pas un seul Européen.
Non.
Pas un seul Européen. Il y a les États-Unis et la Chine
et l'Asie.
Qui dominent le peloton. Ouais. Mais dans les plus grosses, en tout cas, il n'y a pas d'entreprise européenne.
Il faut sortir de cette Europe-là et bâtir une autre Europe. Voilà.
Donc au fond, vous restez, si je résume votre pensée, vous restez favorable à l'Europe, mais vous précisez encore, comme d'autres l'ont fait avant vous, l'Europe des nations, alors que vous avez l'impression qu'on se dirige vers un État fédéral qui ne dit pas son nom.
Oui, dans ce sens, je m'inscris tout à fait dans la vision gaulliste de ce que devait être l'Europe. Vous vous souvenez du président Charles de Gaulle,
quand il
sautait sur son fauteuil comme un cabri.
Comme un cabri.
Hein, l'Europe.
Il était très drôle, le général de Gaulle. On a oublié, c'est quelqu'un de drôle.
Ça nous a marqué.
Bien sûr. Mais malgré tout, est-ce que c'est réversible? Est-ce que tout ça est réversible?
Oui.
Est-ce qu'on ne part pas dans le désert?
On ne part pas dans le désert. Je pense qu'on a des atouts. On a un génie français, ça c'est sûr. On a des chercheurs qui malheureusement partent à l'étranger, mais qu'il faut retenir en France. On a l'origine de pratiquement toutes les grandes inventions, hein, le cinéma, l'automobile, tout cela.
Le cinéma à Lyon notamment.
À Lyon, l'Institut Lumière, bien sûr, les frères Lumière. Donc on a le génie français, on a un magnifique pays, on a des richesses touristiques, des richesses géologiques aussi, ça c'est certain. Il faut une volonté politique maintenant pour mettre tout ça en musique et remettre les Français au travail, faire en sorte que le travail soit effectivement rémunérateur, que chacun puisse vivre de son travail et que l'on soit aussi dans un pays où l'on vive un peu plus en sécurité.
Ah, c'est un vaste sujet, mais oui. Sans vouloir tomber dans les propos de Café du Commerce, vous avez été député longuement. Donc, vous avez aussi, vous savez comme moi, l'impression, je parle sur la forme, l'impression de cirque que donne parfois l'Assemblée nationale, avec des cris d'oiseaux, des gens. On a parfois l'impression que nos propres élus ne respectent pas le système. Il y a une espèce d'indiscipline générale à l'Assemblée qui est assez déprimante à voir, je trouve, et fréquemment.
Alors, de tout temps, il y a eu des débats vifs à l'Assemblée. Moi, j'en ai connu, hein, des extrêmement vifs même. Mais ce à quoi j'assiste, nous assistons aujourd'hui, n'a plus rien de commun avec ce que j'ai connu, moi. C'est plus la même Assemblée nationale. Elle s'est vraiment déconsidérée.
Soyons très clairs, vous mettez ça, vous pensez à LFI spécifiquement ou pas uniquement?
Oui, je pensais essentiellement à LFI, oui. Mais le niveau, d'une manière générale, a baissé. Mais quand je vois ne serait-ce que la tenue, mais vous savez, quand moi j'étais député il n'y a pas si longtemps, si vous n'avez pas une cravate, vous ne rentriez pas dans l'hémicycle. Hein, et vous avez les huissiers qui vous en empêchaient. Il fallait vraiment avoir une tenue correcte. Vous avez vu aujourd'hui la tenue de ces députés, avec en plus des drapeaux étrangers qu'on brandit dans l'hémicycle, ces vociférations, ces menaces physiques.
C'est vrai, mais si la règle était plus stricte, c'est aussi un laxisme de l'autorité qui ne les oblige pas à faire ces choses-là. On manque de fermeté. Ils profitent, ils s'infiltrent dans la brèche.
Oui, c'est ça. Il y a une volonté, finalement, de faire mal à nos institutions pour envisager peut-être demain une révolution, je ne sais quoi. Et donc, l'institution de la représentation nationale est malmenée. Quand je vois la commission d'enquête parlementaire aujourd'hui sur l'audiovisuel public et le pluralisme, la manière dont est traité notamment le rapporteur de cette commission qui fait un travail remarquable avec un courage inouï, je me dis, quand je vois des grands patrons comme Niel, pour ne pas le nommer, se comporter de cette façon-là, arriver en chemise, en bras de chemise, critiquer, rouler dans la boue, traîner dans la boue le parlementaire sur ses indemnités. Enfin,
oui, ça c'est là. Mais lui-même
non,
est assez dur. On voit bien
qu'on le respecte.
Lui-même est un peu Fouquier-Tinville. Il est un petit peu dur aussi quand même à l'oncle, me semble-t-il.
Dans sa manière d'apostrophe. Vous trouvez ?
Très. Oui, on le sent un peu partial, notamment face au service
public.
Moi,
je trouve courageux, je trouve bien, je trouve travailleur, consciencieux. Je me souviens d'un autre rapporteur, une autre commission d'enquête qui nous visait à l'époque, notamment le rapporteur Saint-Toul. Là, j'avais affaire à un commissaire politique. je ne pense pas qu'on puisse dire que M. Charalong est un commissaire politique.
Non, évidemment, ça va pas jusque-là. Est-ce que vous pensez, Diane de Bourguedon, puisque votre constat est un constat sociologique, est-ce que vous pensez que la solution passe quand même par le politique et les choix qui seront faits ?
Alors, je pense qu'en réalité, ce que j'espère, c'est un changement de mentalité profond. C'est-à-dire que ce que j'appelle la prolophobie, elle s'exerce en large part de manière inconsciente. C'est-à-dire que la bourgeoisie, les membres de la bourgeoisie ne se réveillent pas tous les matins en se disant « Mais quand est-ce qu'on va en finir avec ce peuple de Gaulois réfractaires ?» C'est un mouvement plus lancinant et ça se joue aussi au niveau de l'éducation qui est donnée dans les familles. Moi, ce que j'aimerais, c'est que on retrouve aujourd'hui en France l'amitié civique, la filia des Grecs, vous savez, donc ce qui fait un peuple uni. Donc, bien sûr, je ne crois pas qu'il soit nécessaire qu'il n'y ait plus de bourgeoisie. Enfin, je pense que ça peut être intéressant qu'il y ait différentes strates sociales, mais il faut réinstaurer un sentiment de cohésion nationale et de solidarité. Je suis assez sensible aux propos que tient souvent Pierre Vermeren qui parle de responsabilité de classe. Si vous voulez, autrefois, la bourgeoisie traditionnelle était investie d'un certain nombre peut-être de d'avantages, en tout cas en termes de capital économique et social, mais elle se sentait également investie d'une responsabilité vis-à-vis du reste de la France. Et on a l'impression aujourd'hui que cette responsabilité-là, elle n'existe plus. Il n'y a plus de solidarité, il n'y a plus d'intérêt à l'encontre du reste des Français.
C'est l'égoïsme.
Oui, une forme peut-être d'individualisme assez exacerbé, ce qui fait que, en plus, le fait de ne plus fréquenter sur le plan géographique que d'être dans l'entre-soi, finalement, dans ce qu'on appelle la gentrification, où on est vraiment dans les centres-villes, des grandes agglomérations, on ne fréquente que ces semblables, ou de manière très anecdotique, des personnes issues d'immigration quand elles viennent nous livrer les sushis en bas de l'immeuble. Mais ça s'arrête là. Et quand on ne fréquente plus les personnes, quand on ne parle plus avec eux, on n'arrive plus à les comprendre, on n'entend plus non plus leurs doléances. Et c'est vraiment ça qui m'attriste. Et je ne pense pas que ce soit... La politique n'est que la conséquence en fait de ça. Je ne pense pas que ce soit la politique qui ait provoqué cette sécession. C'est plus un mouvement culturel et pour large part inconscient, je pense.
Vous parliez tout à l'heure, et Georges Fenech aussi, de la différence de traitement entre les différents coupables selon leur appartenance. On écoute un petit sketch assez drôle de Laurent Firol qui dénonce ça.
T'es au courant de ce qui s'est passé à Londres ? J'ai vu rapidement des images là, mais le délire, il y avait 1 million de gens dans la rue. Hein. C'est fou. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Pardon, mais ils n'étaient pas 1 million. Ils étaient, allez, 1000, 2000 à tout casser. C'est une illusion d'optique créée par les gens, par les médias. Quoi. C'est très facile à faire hein, quand tu travailles dans les médias. Non, moi je l'ai appris par France Info. Maximum 1500 personnes.
D'accord, ok. Mais ils manifestaient pourquoi ?
Mais c'était une réunion de fascistes.
Oh putain ! Ah ouais ! Et mais il y a eu de la violence, enfin je sais pas, j'espère pas de morts ni de blessés quoi.
Mais non, Mais pas du tout.
Mais comment tu sais que c'était une manifestation fasciste, alors?
Mais précisément, parce que c'est à ça qu'on les reconnaît. Ces manifestations fascistes, c'est qu'il n'y a eu aucun vandalisme. Ils n'ont pas cassé de voiture, ils n'ont pas cassé les abribus, ils n'ont pas vandalisé les forces de l'ordre, ils n'ont pas détruit les vitrines, les banques, ils n'ont pas eu des jets de pierre. Et puis je veux te dire, il n'y avait pas de drapeaux palestiniens brandis un peu partout. Non, que des drapeaux de leur pays. En l'occurrence, un drapeau anglais. C'est extrêmement dangereux.
Il y a un truc que je comprends pas par contre, c'est que s'il n'y a eu aucune violence, il est où le danger alors?
Tout le problème est là. C'est vicieux. Parce que ça permet de faire croire à tout le reste de la société et à nos jeunes qu'il y a encore des gens pour aimer leur pays, respectueux de l'ordre, de la police, sans rien vandaliser. Mais quelle image ça va leur envoyer aux jeunes générations? T'imagines? Hein? Le message c'est quoi? Ils sont gentils, les fascistes.
C'est épouvantable.
C'est assez... Bien, évidemment, c'est parodique, mais c'est assez drôle, non? Ces sketchs de Laurent Sirode.
Oui, je ne connaissais pas ce sketch. Mais...
Oui, il en a fait plusieurs. Il est film à l'arrache, ça s'appelle. Ça dénonce de manière vraiment spectaculaire, plus qu'on le fait, nous, le wokisme rampant qui nous envahit. C'est assez bien fait.
Oui, tout à fait.
La justice, vous le disiez, vous y faites allusion souvent, Diane de Bourguedon, bien que vous ne soyez pas une professionnelle comme Georges Fenech. Je me souviens de ceci qui m'a stupéfié, j'ai un doute. Vous dites que il y a une directive émanant de la préfecture de police qui recommande aux effectifs de, ouvrez les guillemets, ne pas intervenir dans les quartiers à forte concentration de population qui suivent le ramadan pour éviter qu'un manquement aux règles de confinement, c'est à l'époque du confinement, ne dégénère et ne provoque un trouble. J'ai peine à croire. Ça se passe comme ça. Il y a des consignes de ce type qui circulent.
Bah, tout à l'heure, on parlait de est-ce qu'il y a des instructions qui viennent d'en haut et je repensais à cette affaire de ce qui s'est passé pendant le confinement. C'est assez frappant quand même parce que le niveau de zèle de certaines forces de l'ordre pour aller poursuivre des familles qui se promenaient sur la plage ou des randonneurs dans la montagne a été extrême et des personnes ont été soumises à des amendes parce qu'elles avaient osé braver l'ordre. Alors que dans le même temps, vous aviez ce genre de directive qui émanait de la préfecture de police, et en fait, celles qui sont écrites ont paru dans la presse, mais il y en a d'autres qui ont été faites, qui ont été formulées de manière orale pour que ça ne sorte pas, notamment c'est le cas, je crois, en Seine-Saint-Denis. Là, les instructions ont été de ne pas aller faire preuve, justement, de trop de zèle pour faire appliquer les règles sanitaires. Donc là, vous avez encore, si besoin en était, une autre illustration du deux poids, deux mesures, qui finalement, préserve, en tout cas, est assez indulgente vis-à-vis des personnes dont ils ont peur et qui par contre s'acharne sur le français ordinaire qui n'en peut plus.
D'accord avec ça, Georges Fenech?
Oui, je suis d'accord. Aucun ministre de l'Intérieur ne vous dira qu'il y ait des points du territoire où on s'y risque pas, mais en réalité, quand on travaille, moi j'étais juge d'instruction, je voyais bien mes commissions rogatoires, comment elle revenait déjà à l'époque, hein, c'est pas d'aujourd'hui tout ça. Hein. On a laissé filer, quoi. Je voyais bien mes commissions rogatoires qui revenaient, auteurs inconnus, etc. Je dis, mais est-ce qu'ils y sont vraiment allés, quoi? Il y avait des instructions en douce, hein, des instructions non écrites, si vous voulez, de ne pas être présent dans certains endroits pour ne pas donner le sentiment de provoquer et d'avoir ensuite des émeutes. Vous voyez, donc, regardez pour les refus d'obtempérer, les instructions qui sont données, par exemple, préférons laisser passer plutôt que de provoquer une chute qui pourrait amener d'autres émeutes, etc. Donc c'est une manière finalement de perdre petit à petit, c'est une forme de grignotage, hein, de la délinquance d'habitude bien ancrée, grignotage par rapport à l'autorité de la police, notamment dans les quartiers. Et évidemment, le non-suivi par la justice qui devrait être beaucoup plus sévère.
Et je voudrais rebondir, on entend très souvent parler du laxisme judiciaire, mais en réalité ce qu'il faut voir c'est que le laxisme judiciaire ne concerne pas tous les Français. La justice n'est pas laxiste avec tout le monde. Elle est, on ne peut pas le constater autrement, elle est toujours laxiste avec les mêmes profils, les jeunes délinquants. C'est toujours dans ce sens-là.
Vous pensez que le suivant, que vous serez puissant ou misérable de La Fontaine, a été inversé en quelque sorte?
C'est exactement, d'ailleurs j'y fais référence dans mon livre, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'à vouloir trop tenir compte d'éléments contextuels, à imaginer que c'est la société qui a fabriqué des criminels et des délinquants, on a complètement, Georges Fenech qui faisait allusion tout à l'heure, complètement renversé finalement la politique et on est dans une justice de restaurative ou réhabilitative.
Ça a été pensé, ça ne vient pas de nulle part. Hein. Ça a été théorisé sous l'appellation de la défense sociale nouvelle par un certain magistrat Marc Ancel qui s'est inspiré de ce qui se faisait en Italie et Défense sociale nouvelle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, ne croyez pas que le criminel soit le premier coupable. Il est en réalité la première des victimes de notre société qui produit des discriminations ethniques, économiques, sociales. Et donc, à partir du moment où vous considérez le crime comme un sous-produit de la misère, dans une sorte de vision marxiste, à laquelle adhérait par exemple Lionel Jospin, qui avait fait cet aveu incroyable pendant les campagnes de 2002, j'ai péché par naïveté, j'ai cru qu'en faisant reculer la misère, je ferais reculer la délinquance. Mais non, c'est tout le contraire d'ailleurs, c'est la délinquance qui produit de la misère dans les quartiers. Donc vous avez cette doctrine de la défense sociale nouvelle, le criminel est d'abord une victime. Donc pourquoi voulez-vous condamner une victime ? Au contraire, il faut s'en occuper, s'en préoccuper, éviter au maximum du possible une incarcération parce que la prison est criminogène. Donc ne construisons pas surtout de places de prison.
Les peines c'est un angélisme, ce sont des gens de bonne foi selon vous qui se trompent ?
Je pense que c'est une vision angélique. Oui, je pense qu'ils sont, ils sont d'un certain côté. Ils sont de bonne foi d'un certain côté, mais ils se trompent. Ils se trompent complètement. D'abord, ils n'ont pas à dire cela, parce que la justice, elle doit être impartiale.
Bien sûr.
Elle ne doit pas faire de soyez partiaux, comme on rappelait tout à l'heure. La justice doit être indépendante de toute idéologie et impartiale dans cette décision.
Vous avez été député, vous avez été magistrat. Vous dénoncez tous les deux dans vos différents livres l'évolution un peu désolante de la société. Je me permets de vous demander, que pensez-vous, vous, avoir fait individuellement pour essayer de freiner cette évolution que vous déplorez ?
Je pense très modestement avoir fait tout ce que je pouvais. Voilà. Au sein de mon syndicat, j'en ai pris la présidence d'ailleurs, j'ai subi, pardon de parler de moi, vous-même.
Non, bien sûr, mais c'est intéressant.
Je le rappelle dans ce livre d'ailleurs, j'ai subi des préjudices de carrière importants, j'ai été traduit devant des juridictions, on m'a discrédité, on m'a...
Des mots malheureux, échappé à un auteur sous l'égide qui travaillait sous votre égide censément.
Qui n'était pas moi d'ailleurs.
Qui n'était pas vous.
Au bout du compte, ça s'est terminé par des relax, des dispenses de peine, etc. Mais le mal a été fait, si vous voulez. Mais à partir du moment où vous accusez, moi je pense aujourd'hui à Michel Onfray et Jean Drouet, ils sont jetés en pâture, ça ne sera pas facile de revenir indemne de tout ça.
Les événements récents, oui.
Donc, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais j'ai compris que je ne pouvais pas grand-chose, en réalité. C'est d'ailleurs ce qui m'a décidé de quitter, de me mettre en disponibilité de la magistrature pour trouver une légitimité issue du suffrage universel et pouvoir peut-être être plus efficace dans l'évolution de la justice. C'est pour ça que je suis passé de la justice à la politique.
Mais maintenant que vous êtes un chroniqueur, donc un chroniqueur, et c'est dit sans aucune irrévérence, ce n'est qu'un observateur. Vous n'êtes plus un acteur direct, vous êtes un observateur de cette vie. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que finalement, vous pesez aussi un peu comme ça ?
Oui, moi je crois que la parole que nous avons sur une grande chaîne, qui est aujourd'hui la première chaîne d'information, qui est très écoutée notamment du pouvoir, et on le sait, peut influer sur le débat, peut même influer sur d'autres médias. On le voit, hein. Quand on lance un truc parce que personne ne veut en parler et nous on en parle, après, on voit que c'est repris avec un temps de retard, mais c'est quand même... Donc on a, je pense, la parole est très importante, la parole publique, elle est très importante, et en ce sens, je me félicite de pouvoir continuer à m'exprimer. Quoi.
Alors, à ce propos, et ne le prenez pas mal, l'autodérision, c'est bien aussi.
Oui, aussi.
Un bref extrait d'une parodie, vous devez la connaître, d'une parodie de l'heure des pros.
Non mais c'est vrai, Abdelkader, calmez-vous un peu, calmez-vous.
Je suis très calme. Ce que je veux vous dire, moi. C'est que le Coran, moi, je l'ai lu. Hein, je l'ai même étudié. Et je peux vous citer des versets qui prônent l'amour, le respect des autres et le vivre ensemble.
Mais écoutez, c'est insupportable ! C'est insupportable ! Moi, je ne peux pas animer une émission dans ces conditions ! Là, vous faites de la provocation !
C'est
incroyable, ça ! Mais bien sûr ! C'est dangereux !
C'est dangereux pour la...
C'est insupportable, Abdelkader ! Allez, jingle !
Excusez-moi de rire, c'est quand même bien fait dans le genre.
Absolument, j'ai cru reconnaître Pascal Pro, c'est
absolument,
ça.
Absolument, oui. Avec ses élans.
Avec ses élans, sa fougue, sa spontanéité.
Et une certaine forme de choix dans ses invités.
Oui, mais il défend une idée, une bien certaine sûr. Idée. Enfin, il a ses idées.
Vous êtes d'accord qu'on a le droit d'en rire
Bien sûr, on est les premiers à en rire d'ailleurs. Et puis nous-mêmes, entre nous, si vous écoutez sur Europe 1, on se critique, on se caricature. Heureusement d'ailleurs. qu'on n'est pas des gens trop sérieux et qu'on sait rire un peu de nous-mêmes.
Contrairement d'ailleurs aux gens de l'autre bord, pour le
coup. Oui, c'est
parce
vrai.
Aujourd'hui, l'humour est vraiment d'un certain côté. Ouais. La capacité d'autodérision, la capacité de rire de soi, elle est vraiment plutôt du côté de CNews et qu'on sort que de l'autre côté.
Diane de Bourguedon, je disais tout à l'heure qu'on ne sort pas indemne de la lecture de votre livre qui dénonce la prolophobie, qui s'appelle Les Indésirables. Les deux livres sont bien sûr chez Fayard, je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, je vous le redis. Est-ce que vous-même, en finissant ces derniers mots, vous n'étiez pas un peu désespéré?
Mais écoutez, moi je pense que je suis une pessimiste joyeuse, hein. C'est-à-dire que je trouve beaucoup d'agréments et de joie dans la vie, et la vie notamment en France, parce que ce pays nous permet encore de jouir de paysages magnifiques, d'un patrimoine considérable, d'une histoire très riche. En revanche, je reconnais que d'élection en élection, je suis de plus en plus pessimiste. J'aimerais offrir, quand on a des enfants et des petits-enfants, on aimerait leur offrir un meilleur avenir. Moi, je dis souvent à mon fils, c'est terrible comme constat, mais je lui dis que je suis triste que tu ne grandisses pas dans la France dans laquelle j'ai grandi, moi.
Parce qu'aujourd'hui,
quand vous avez un enfant qui est un adolescent, vous avez peur qu'il sorte le soir, etc. Il n'y avait pas ça à mon époque. Et malheureusement, on donne la vie et on offre un monde qui est très éloigné de celui qu'on a pu connaître.
On va écouter une minute avant de se séparer, une minute de quelqu'un qui parle de la France, bien qu'il ne soit pas français. C'est souvent ceux-là qui en parlent le mieux. Ça s'appelle Le mot France, Richard Cocciante, mais ce n'est même pas une minute. Hein.
Plus loin, beaucoup plus loin qu'on pense. C'est à Saigon que j'ai eu mon enfance. Et ma mère là-bas le disait doucement. Le mot France, France. Le temps s'est enfui, mais je le sais depuis. Il suffit d'être loin ou seulement d'être seul pour avoir le cœur serré quand on entend le mot France, le mot France.
Le cœur serré quand on entend le mot France, c'est beau, c'est joli. Ce n'est peut-être pas pour les mêmes raisons qu'on a le cœur serré maintenant, parce que la France telle qu'elle nous attriste tous. Mais on a quand même foi. Le livre de Georges Fenech se termine par une très belle ode que je n'ai pas le temps de vous lire et que vous découvrirez si vous voulez acheter ce livre. Ne dites pas à ma mère que je suis chroniqueur sur CNews. Elle me croit toujours jugé à Hasbrook, c'est chez Fayard. Merci Georges Fenech.
Merci infiniment de votre accueil.
Et Diane de Bourguedon, qui vous parle des indésirables. Les prolophobes sont les coupables, les indésirables sont les victimes. Il n'y a pas de doute là-dessus. Merci à tous deux. Merci infiniment.
Merci Marc. Merci.
Bonne soirée, à bientôt ici sur Courtoisie.
Vous venez d'entendre Les Neiges du Kilimandjaro dirigées par Marc Bessou. Diffusé en direct sur Radio Courtoisie samedi 4 avril 2026 de 19h30 de 18h pardon, à 19h30 et réalisé par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.